France Inter.
Enquête de politique, chaque semaine, nous explorons une idée, une tendance, un mouvement politique, son histoire et son actualité, son poids sur nos consciences et dans nos débats.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Et aujourd'hui, les réactionnaires suite le fantasme de l'hégémonie culturelle.
Nous allons nous retrouver avec deux peuples, le peuple de Mélenchon, islamo-gauchiste, woke, etc. Et le peuple de droite qui veut défendre l'identité française.
Contrairement à ce qu'on nous a dit pendant des années, les réacs, c'est pas les moisis, c'est pas les grincheux, c'est une force intellectuelle et idéologique montante, pleine de dynamisme.
Lors des précédents numéros de cette série d'enquêtes de politique consacrée aux réactionnaires, nous nous étions plongés dans l'agrarisme, ce mouvement du 19e et du début du 20e siècle qui tentait, dans les campagnes, de conserver l'ordre social d'avant 89 et proposer un modèle de société, un système de valeurs pré-révolutionnaire, une branche du mouvement réactionnaire un peu oubliée aujourd'hui et qu'il est utile de revisiter pour bien comprendre certains clivages toujours actuels, comme celui du monde citadin, censément libéral et déraciné, versus un monde rural, nos racines, prétendument siège de la vraie France éternelle. Nous avons aussi, c'était la semaine dernière, exploré les origines du mot et du fait réactionnaire. Les réacs réagissent à partir de 1815 à la Restauration, au souffle de la Révolution de 1789 et entretenaient, jusqu'à la Première Guerre mondiale, la flamme du retour du roi et de l'ordre ancien. Ces deux épisodes d'enquête de politique sont bien sûr disponibles à la réécoute sur le site de France Inter ou en podcast. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux réactionnaires depuis la Libération, le maréchal Pétain et sa Révolution nationale, le régime politique et idéologique pendant la collaboration avait été, comme l'avait dit Charles Maurras de l'Action française, la divine surprise. Et en 1945, les tenants de la réaction qui s'étaient, pas tous mais quasiment tous quand même, qui s'étaient vautrés dans le déshonneur et la soumission, et même au-delà des desiderata de l'ennemi nazi, étaient bannis du débat et de l'espace public. Ils sont sporadiquement réapparus à l'occasion d'événements ou de crises sociales, le poujadisme dans les années 50, la guerre d'Algérie, de façon plus anecdotique avec certaines candidatures aux différentes élections présidentielles, comme celle de Jean Royer, le pudibond maire de Tours, tenant de l'ordre moral, 6 ans après mai 68, en pleine révolution sexuelle à l'élection de 1974. Il y a bien sûr eu l'émergence du Front National dans les années 80, en réaction à l'exercice du pouvoir par la gauche. Aujourd'hui, politiquement, c'est en partie Marine Le Pen, mais surtout Éric Zemmour, qui reprend les codes et les marottes de la réaction. Zemmour le théorise d'ailleurs lui-même dans son dernier livre. Ainsi, après la question de la République, la question sociale, les deux thèmes successifs et structurants du débat gauche-droite vient, ou viendrait plutôt, le thème identitaire. Royaliste et catholique jusqu'en 1914, nationaliste anti-lumière depuis l'affaire Dreyfus, républicain autoritaire, on pourrait ajouter populiste, hein, il faudrait mieux définir ce mot, ce sera d'ailleurs le thème d'une série d'enquêtes de politique dans l'avenir, populiste, disons le poujadisme jusqu'à Marine Le Pen, la réaction muterait donc pour devenir essentiellement identitariste. À la fin des années 80, certains intellectuels comme Alain Finkielkraut commencent à se poser la question de la modernité post-68 et du pouvoir de notre identité politique et culturelle sous les effets de la démocratisation et de la massification de l'accès aux études supérieures. La culture de masse, favorisée par un enrichissement général à la fin des Trente Glorieuses et la gauche au pouvoir, une sorte d'idéologie dominante de la tolérance et du multiculturalisme, l'apparition d'un islam politique évident, commence à créer une forme d'insécurité culturelle, une panique identitaire, d'abord chez certains intellectuels, jusque-là dépositaires du savoir classique moderne. Un homme, Alain de Benoist, dans les années 70, avait été précurseur de ce mouvement de résistance à la modernité qui connaîtra un peu plus tard ses auteurs de talent, Philippe Muret, ses théoriciens angoissés, Alain Finkielkraut, et aujourd'hui, avec Éric Zemmour, ses politiques radicaux. Philippe Muret, avec L'Empire du Bien en 1991, Alain Finkielkraut avec La défaite de la pensée en 1987, ce n'était pas du retour ou de la résurgence de la vieille France, de la tradition, mais bien une nouvelle pensée réactionnaire. Une sorte de Holker atrabilaire face à un progressisme devenu officiel, au but incertain, à une boboïtude mal définie. Une peur aussi de la dilution de la culture classique dans la démocratisation de la société. Cet antimodernisme de la fin du siècle dernier s'est sophistiqué. Il s'est radicalisé face à la formidable mutation anthropologique qui se développe dans les pays occidentaux s'agissant du rapport homme-femme. Face à la prise de conscience grandissante des ravages de la domination masculine millénaire que la nouvelle génération entend bien faire cesser. Le vertige que provoque cette révolution des rapports humains exacerbe les angoisses des antimodernes. Mais il est un domaine qui cristallise depuis les années 70 la panique réactionnaire, c'est l'histoire. L'histoire est devenue l'un des enjeux, un des ressorts les plus efficaces de la nouvelle réaction. Notre histoire, et plus particulièrement l'histoire de la colonisation, en lien direct avec la peur de la vengeance de cette histoire sous la forme d'une invasion migratoire, d'une guerre de civilisation sur notre territoire.
On est en pleine repentance, comme vous le savez. On a l'air de découvrir que l'histoire est tragique.
Alain de Benoît, récemment sur Sud Radio, suce à la repentance et à la haine de soi.
Et que dans l'histoire, il y a des grandes pages de lumière et il y a des pages sombres. Et au lieu de dire, j'assume tout, on bat sa coulpe. Donc le refrain, le mantra, c'est mea culpa. On voit bien l'origine religieuse de ce genre d'attitude, mais qui aujourd'hui va vers la négation de soi. Non pas l'examen de conscience, qui est une chose très belle, mais la négation de soi, en disant « j'appartiens à un peuple maudit, mes ancêtres n'ont fait que du mal dans l'histoire, donc on est dans une représentation. »
C'est ma faute, c'est ma très grande faute.
Une guerre culturelle est donc menée par les nouveaux réactionnaires pour teinter l'histoire et lui donner un autre sens commun. Ils fustigent les effets moutonniers de la culture de masse, du divertissement officiel, des parcs d'attractions, des solidarités obligatoires, des gay pride, la fête de la musique. Mais ils tentent eux-mêmes d'utiliser ces outils du soft power avec l'espoir d'entamer ce qu'ils appellent l'hégémonie culturelle de la gauche.
Après avoir incendié toute la Vendée, voilà qu'elle nous incendie à son tour.
Ne sont pas du pays, nous aussi.
Extrait de la bande-annonce de Vaincre ou mourir, film qui revisite la guerre de Vendée avec un tropisme chouan, une œuvre produite par la société du parc d'attractions Le Puy du Fou.
L'armée qui nous fait face est, dit-on, la meilleure du monde. Mais ces soldats, nous pouvons les battre !
Les réactionnaires, on l'a vu la semaine dernière, idéalisent le passé et ne supportent pas, c'est d'abord à ça qu'on les reconnaît, que soient questionnées les zones d'ombre de l'histoire de France. La campagne 2022 d'Éric Zemmour et la mise au point qu'ont dû faire les historiens s'agissant de son utilisation biaisée de l'histoire dit bien l'importance de cette matière dans la tentative de guerre culturelle réactionnaire à l'œuvre en ce moment. On va retrouver maintenant deux historiens de la droite et de la réaction pour mieux comprendre ce mouvement. D'abord Olivier Dard, historien à Paris 4 et membre du CNRS. Il est entre autres le co-auteur de la série de dictionnaires du conservatisme, dictionnaire du progressisme et dictionnaire du populisme aux éditions du CERF, les réactionnaires depuis la libération avec Olivier Dard. Qui sont les réactionnaires après la guerre? Est-ce qu'il y a encore des royalistes? Charles Maurras n'existe plus vraiment, il est déconsidéré, il est condamné, amnistié, mais bon, il est déconsidéré.
Il est encore là pour les siens.
Il est encore là pour les siens,
ah oui.
Ouais.
Ah oui, il est encore là.
Mais et... c'est une figure littéraire.
Ah, non, pas seulement une figure littéraire, pour Aspect de la France, hein, quand oui, Aspect de la France... Ah oui, mais si vous voulez, c'est marginal, mais à l'échelle du temps. Mmh. Mais dans ce petit monde, est quand même très marginal. Donc à partir de là, dans la marginalité...
Il est important.
Il existe encore à la fois pour deux ou trois hommes qui vont jouer un rôle évidemment essentiel. Pierre Boutan, Jean Madiran. Et là, on a toute une empreinte, effectivement, catholique traditionnaliste, plus d'autres personnalités qu'on va retrouver plus tard, alors aux confins du politique et du religieux, dans des mouvements comme la Cité catholique, par exemple.
On va écouter un extrait de Radioscopie, la célèbre émission de France Inter, en 1981, avec, justement, Pierre Boutan. Il parle de son royalisme.
La monarchie me semble
un régime raisonnable, un régime politique plein de bon sens qui permet d'éviter ce qu'on appelle d'habitude démocratie et ce qu'on appelle tyrannie. Alors je suis royaliste comme je respire, je suis royaliste naturel, et de plus la fidélité au roi, à la personne du comte de Paris, à la dynastie, quelque chose pour moi de vital. Je ne dirais pas, comme quelqu'un l'a dit, monarchie intérieure, non, monarchie extérieure. Je voudrais bien vivre en monarchie, et je souhaite que mes enfants vivent dans un tel régime qu'il paraît le plus humain. Maintenant, catholique, c'est comme aussi que c'est mon baptême. J'essaie de l'être, je suis baptisé, et je ne me vois pas autrement.
Alors, Olivier Dard, elle est intéressante, cette archive, parce que il dit « je ne me vois pas autrement », il dit « c'est pas personnel », mais quand même son ton, on sent bien qu'il y a de la nostalgie, c'est assez identitaire. On a l'impression qu'il n'y croit plus beaucoup. C'est quelque chose, c'est une fidélité.
C'est doublement intéressant. D'abord, effectivement, c'est une fidélité, mais une fidélité à quoi ? Il explique qu'il est fidèle, effectivement, au comte de Paris. Pierre Boutan est sans doute aussi fidèle à ce que fut son propre itinéraire. C'est-à-dire que Pierre Boutan est un des jeunes maurrassiens de la fin des années 30.
Il l'a fréquenté, oui.
Ah ben, de très près, oui. Il est tombé, j'allais dire, il est tombé dedans quand il était tout petit. Et il est très lié à la fois à la personne et à la mémoire de Charles Maurras, auquel il a consacré un ouvrage. Mais ce qu'il est intéressant aussi de noter dans le cas de Boutan, c'est justement l'emploi de ce mot fidélité. Car le maurrassisme n'est pas ou ne peut pas s'inscrire dans une logique de fidélité. Je veux dire par là que ce qui caractérise Maurras, au moment où il met sur pied ce qu'il va appeler le nationalisme intégral, c'est la volonté de rationaliser l'engagement monarchiste. Il est très ambigu, Maurras, comme souvent. Maurras n'est pas qu'un héritier du royalisme. Il est profondément, quoi qu'il en dise, un homme du 19e siècle. Et il est aussi...
plutôt un nationaliste, alors.
Alors oui, mais il est à la conjonction. Hein. Il est à la conjonction et du nationalisme et de l'héritage royaliste. Mais de ce point de vue, la fidélité, finalement, c'est la permanence, c'est l'habitude, etc. Mais Maurras, lui, quand il construit son projet monarchiste, il veut justement arriver à convaincre ses contemporains que le royalisme n'est plus dépassé ou n'est pas dépassé, que ce n'est pas une fidélité ancestrale à quelque chose, mais un projet qui, pour lui, doit être tourné vers l'avenir. Et pourtant, lui, il est entre les deux.
Oui, et vous avez parlé de Jean Madiran tout à l'heure, et Jean Madiran, lui, accompagnera l'expérience du Front National version Jean-Marie Le Pen, au début, dans les années 70-80. Donc, il fait aussi évoluer cette tendance.
Oui, alors Jean Madiran, lui, est dans une autre logique. C'est-à-dire qu'il y a... après la guerre, il y a une concurrence entre Madiran et Boutan. Boutan, c'est l'homme d'aspect de la France. Madiran cherche à créer d'autres journaux. Finalement, ça ne fonctionne pas. Mais Madiran, trois choses le caractérisent. Un, c'est quelqu'un qui est d'abord un grand disciple de saint Thomas. Et Boutan parle de saint Thomas. Et la question de saint Thomas d'Aquin est fondamentale.
Les thomistes.
Les thomistes, parce qu'on retrouve aussi la question corporatiste et l'idéalisation du Moyen-Âge. Maurras n'idéalise pas le Moyen-Âge. Ce qui intéresse Maurras, c'est la France classique. En termes de référence, ce n'est pas la même chose. Deuxième élément intéressant chez Madiran, c'est son ancrage catholique traditionnaliste. Quand il va soutenir le Front National, effectivement, c'est dans une certaine tendance de ce Front National, c'est-à-dire la tendance de ceux qu'on appelait les catho-tradis, puisqu'il a créé le journal présent.
Avec Romain Marie.
Avec Romain Marie, absolument.
Alors on va encore avancer dans le temps et venir maintenant aux temps actuels où on remarque depuis quelques années eh bien une sorte d'offensive de ce qu'on appelle les nouveaux réacs. Je vais vous faire écouter un journaliste, un jeune journaliste, Alexandre Devecchio, qui se présente comme nouveau réac et qui, sur France Inter, où il officiait une fois par semaine l'année dernière, avait un petit peu expliqué cette démarche.
Et oui, Nicolas, il n'y a pas que la génération woke dans la vie. À côté de la jeunesse dite progressiste, acquise aux thèses intersectionnelles des campus américains, il existe une autre jeunesse qui mène au contraire une contre-révolution conservatrice. Mais qui dit conservateur ou réactionnaire ne dit pas nécessairement ringard ou poussiéreux. On peut être fan d'Éric Zemmour et porter des baskets tendance, défendre les repères traditionnels et goûter le plaisir de la transgression, être anti-moderne et ne rien ignorer du fonctionnement de Twitter ou TikTok. S'ils sont aujourd'hui aujourd'hui omniprésents sur les chaînes d'infos, les néo-néo-réacs ont d'abord dû exister hors des médias traditionnels qui leur étaient globalement hostiles. Ils ont fait des réseaux sociaux leur agora pour contrecarrer ce qu'ils estimaient être la doxa officielle, mener la bataille du cool pour mieux gagner celle des idées.
Alors on a l'impression que ces néo-réacs, tous ces petits jeunes qu'on voit à Valeurs Actuelles, à CNews, ils sont un peu fascinés par la gauche qui a gagné culturellement dans les années 60-70 et ils veulent faire pareil, ils veulent introduire le cool. J'avais envie de faire écouter à un historien de la droite, de la réaction et de la France classique, cette voix d'un jeune néo-réac.
Oui, non mais bien sûr.
Mais vous avez une petite moue dubitative pour non, les auditeurs qui n'ont pas la couleur, comme
on
dit.
Pas du tout, non. C'est-à-dire que je crois qu'il y a deux choses. Bon, la question du triomphe culturel de la gauche, j'ai envie de dire, c'est une vieille histoire. Dans les années 70-80, le problème se pose déjà, et toute une série de revues, de débats tournent autour de cette question. Sauf que ce qu'on appelle la gauche à l'époque, c'est le marxisme. Et de ce point de vue, évidemment, les temps ont changé. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément qui me paraît très important, c'est au-delà de ce monde de ces jeunes néo-réacs, c'est peut-être un problème de transmission. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui reste de toute une série de cultures politiques et de sédimentations qui ont été marquantes pendant des décennies et des décennies, en termes de références, d'auteurs, etc., etc., chez cette ou chez ces nouvelles générations.
Ils les lisent, ils disent qu'ils les lisent. Alors, je vais vous faire écouter, puisqu'on parle de génération, un autre éditorialiste, appelons-le plutôt des polémistes, hein, parce que sur CNews, moi je considère qu'ils sont plus polémistes qu'éditorialistes. C'est pas simplement une question de point de vue, c'est une question de définition du journalisme. Bon, ça m'est personnel. Yvan Rioufol, sur CNews, il y a quelques mois.
Chateaubriand avait dit, en parlant de 1789, qu'en 1789 a éclaté, la Révolution était déjà terminée. C'est-à-dire qu'il voulait dire par là que la Révolution avait eu ses racines bien avant, dans les années précédentes. Je pense que c'est ce même phénomène qui apparaît aujourd'hui avec cette révolution dite conservatrice. Et pardon de me citer, mais j'avais écrit un livre qui s'appelait « De l'urgence d'être réactionnaire » dans lequel j'observais justement ces réticences de l'opinion d'être représentée par l'opinion officielle et qu'elle avait en effet plutôt des ressources à revenir en arrière. Et je crois que nous vivons en effet ce grand moment dit réactionnaire. Je pense qu'en effet, la France est devenue réac.
Alors, Olivier Dard, juste avant de vous faire réagir, est-ce que la France est redevenue réac? Est-ce que vous sentez un mouvement de fond? Je voudrais quand même vous faire clarifier quelque chose, parce que ici, Yvan Rioufol, mais tout à l'heure aussi Alexandre Devecchio, dans leur intervention, parlaient des réactionnaires et des conservateurs, avec ce mot bizarre, révolution conservatrice, qui est un oxymore normalement. Quelle est la différence pour vous, s'il y en a une, entre conservateurs et réactionnaires?
Il y en a, bien sûr, il y a des différences. En particulier, ce sont en général deux familles qui ne s'apprécient pas forcément, puisque les conservateurs cherchent finalement quelque part à s'adapter au monde qui est le leur, sans vouloir nécessairement, comme le proclament les réactionnaires, revenir à un monde ancien qui serait supposé meilleur que l'actuel.
Donc, ouais, ils sont tempérés et prudents, mais ils acceptent l'évolution.
Alors, ils acceptent l'évolution, mais donc ce qui leur vaut évidemment l'image d'être particulièrement tiède, pour ne pas dire quasiment accusé de traîtrise. Bon, mais là où c'est peut-être plus intéressant, c'est d'avoir à l'esprit deux choses. La première, c'est que ce qui caractérise, me semble-t-il, le conservatisme, d'abord, c'est la notion de limite. Et à cet égard, cette notion de limite, elle est, je pense, tout à fait centrale, parce que le conservateur ne va pas forcément refuser tout changement, simplement face au progressiste qui, lui, considère que l'évolution sera nécessairement meilleure demain que ce qui existe aujourd'hui, il va s'interroger sur les mérites supposés de la dite évolution. Et par ailleurs, cette question de la révolution conservatrice, vous employez le terme, c'est un terme qui n'est pas spécialement français. Le mouvement de la révolution conservatrice, c'est d'abord un mouvement allemand, autour notamment, mais pas seulement, d'une figure comme Möller Vandenbrück. Mais Möller, lui aussi, fait une opposition entre le réactionnaire et le conservateur, en considérant que le conservateur, lui, est réputé beaucoup plus dynamique. Et que le réactionnaire est, au fond, serait, d'après lui, quelqu'un uniquement tourné vers le passé, quand le conservateur, lui, serait quelqu'un de dynamique, qui voudrait, au fond, à travers la conservation, voir se pérenniser un certain nombre de principes et de valeurs.
Nous sommes toujours avec l'historien des idées Olivier Dard, en quête de politique cette semaine, dernier épisode d'Enquête de réaction. Alors, est-ce qu'il y a une révolution conservatrice, pour prendre ce terme impropre? Est-ce qu'il y a un retour, selon vous?
Il y a une parole conservatrice qui a pu se développer et émerger, mais face aussi à la montée du progressisme. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'un sans l'autre. Mais je dirais que, de ce point de vue, un des épisodes qui, à mon avis, intéressera, je pense, les historiens de l'avenir, ça a été tout le phénomène de la Manif pour tous, tous les problèmes qui se sont posés autour de cette question. Et je pense que les enjeux qui nous occupent, moi je suis très soucieux et très intéressé d'ailleurs par toutes les questions liées notamment au transhumanisme, je pense que de ce point de vue, il y a sur un certain nombre de débats comme l'intelligence artificielle, le transhumanisme, etc., des vrais points d'ancrage pour une réflexion sur le progrès, le conservatisme.
Et peut-être même des points d'accord avec l'autre bord, une partie de la gauche, notamment sur les écologistes, sur cette notion des limites. Alors, vous parliez du progressisme versus conservatisme ou la réaction, et nous allons, avec Aurélie Marciro, toutes les semaines, nous nous penchons sur un livre pour aller un peu plus loin sur notre sujet. Et aujourd'hui, Aurélie, bonjour Aurélie.
Bonjour Thomas.
Vous nous proposez de regarder de l'autre côté de la Manche, du côté de Douglas Murray. Vous connaissez Douglas Murray?
Alors, je ne connais pas personnellement, je l'ai lu.
Voilà. Alors, Aurélie va nous en dire un peu plus.
Alors, notre ancien collègue Brice Couturier avait commencé une chronique sur France Culture il y a 2 ans en disant, je cite, « Il arrive que des livres à contre-courant, voire franchement réactionnaires, enregistrent d'importants succès de librairie. Il parlait de la grande des raisons, race, genre, identité. Mais le précédent, Murray, le suicide de l'Europe, immigration, identité, islam, avait également caracolé en tête des ventes. Et enfin, le dernier est sorti en août dernier. Son titre, Abattre l'Occident, comment l'antiracisme est devenu une arme de destruction massive. Et ils sont tous publiés en France aux éditions de l'Artilleur.
Alors, qui est ce Douglas Murray?
Alors, c'est un journaliste et essayiste à succès de 44 ans. Il écrit pour le Wall Street Journal, le Times, le Sun, The Evening Standard. Il est très populaire et ses vidéos font des millions de vues. La grande des raisons a été désignée livre de l'année pour le Times et le Sunday Times. Le suicide de l'Europe en 2017 a été traduit dans 20 langues. Alors sur son site, on peut lire des citations. Qu'on soit d'accord ou non avec lui, c'est un intellectuel important, ça c'est Bernard-Henri Lévy. Pour l'écrivaine Lionel Shriver, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et enfin, pour Roger Scruton, il pose les bonnes questions. Vous voyez une sorte d'Éric Zemmour international. Et pour terminer, devinez le titre de l'interview qu'il a accordé à Causeur en 2020.
Ah, je sais pas, vive les réacs, ou les réacs sont cool, sont modernes.
Non, Douglas Murray, le grand chic réac.
Ah, moi, je n'étais pas très loin. Et donc, plus précisément, vous voulez parler de la grande déraison, race, genre, identité,
oui,
tout ça.
Oui, parce que c'est une sorte de manuel pour penser réactionnaire. Il attaque le wokisme et la cancel culture, ennemi de la raison, l'intersectionnalité au nom du bon sens. Selon lui, ces théories fragiles, récentes, issues de sciences sociales militantes, vont provoquer plus de dégâts que réparer d'injustices. Et il dénonce ces combattants de l'injustice sociale au nom du syndrome de Saint-Georges à la retraite.
Qu'est-ce que c'est que ça, Saint-Georges à la retraite?
Alors, après avoir terrassé le dragon, le guerrier en quête d'exploit, donc Saint-Georges, parcourt le monde et bataille contre des dragons de plus en plus petit, pour finir par fendre l'air contre des monstres imaginaires. Alors vous voyez l'idée, gay, lesbienne, antiraciste, féministe, tout le monde en prend pour son grade. Mais c'est dans le domaine de la sexualité que l'auteur est le plus incisif. Si on est homosexuel, comment peut-on être femme pour se découvrir homme ensuite? Le progrès serait-il que les femmes trouvent attrayants des hommes qui en réalité ne les attirent pas? Existe-t-il une féminité toxique? L'idée directrice étant qu'être femme, être noire ou être gay, ou les trois, n'assure pas une connaissance morale supérieure et que la société qui se profile est un espace où vivre ensemble est impossible vu que l'on ne peut plus parler sous peine d'être banni. Alors c'est un livre provocateur, détonnant, mais qui fait réfléchir, donc qui mérite d'être lu. Et Olivier Dard, j'ai une question pour vous. La rhétorique du bon sens hein, qui est vraiment très présente dans ce livre, est-ce que c'est un marqueur des néo-racs?
J'ai envie de vous dire, c'est souvent utilisé. Oui, pour une part, mais pas seulement des réacs.
Ça, ah, le bon ça, sens, c'est très,
ça fait,
c'est,
oui,
c'est
ça,
très pratique.
Ça fait penser aussi à Antoine Pinet, vous voyez.
Oui, bon, oui. Voilà. C'est comme la majorité silencieuse, on fait dire ce qu'on veut.
Oui, mais ça aussi, ça a une histoire, la majorité silencieuse. Voilà. Donc non, je crois qu'effectivement, ça évite peut-être une confrontation de fond.
On a un petit peu l'impression, avec ces néo-réacs qui argumentent sur le wokisme, par exemple, que ce sont deux extrémismes, deux tendances très réduites finalement du débat, qui font beaucoup de bruit, qui sont très sonores et qui se nourrissent l'un l'autre.
Oui, mais ça, pour le coup, à votre question, je pense que que vous disiez dans votre présentation, l'importance des réseaux sociaux joue un rôle tout à fait essentiel. Mais en même temps, moi, ce qui me frappe, je connais pas le chiffre des ventes hein, de ces ouvrages, mais bien souvent, moi, je suis très frappé d'observer à quel point un certain nombre de vidéos, par exemple, peuvent être vues, mais par des gens qui ne liront pas ce qu'ils ont vu. De ce point de vue, je suis quand même toujours un peu... Oui, c'est peut-être l'universitaire,
des débats de surface. On peut pas ne pas vous soumettre à la question à propos d'Éric Zemmour, et je vous propose d'écouter Éric Zemmour qui revendique son côté réac.
Réac, d'abord, ça veut dire deux choses. Ça veut dire réagir à l'esprit du temps, et effectivement, je réagis à l'esprit du temps que je combats, qui est le produit donc de cette 68-ardisation de la société. Et réac, ça veut dire qui aime un ordre plus équilibré. Je pense que le désordre, l'anomie qui a été créée depuis 40 ans est source de malheur, de souffrance, et que c'est l'ordre qui est libérateur.
Alors là, il y a le côté anticonformiste contre l'air du temps. C'est une vieille rengaine réactionnaire.
Moi, ce qui m'intéresse aussi chez Éric Zemmour, c'est de le voir comme historien. Moi, voyez-vous, je lisais Éric Zemmour quand j'étais étudiant dans le Quotidien de Paris. Puis je me souviens aussi qu'il a écrit dans Globe.
Globe, journal voilà. Plutôt mitterrandiste à la mode voilà. Des années
donc,
80.
Si vous voulez,
comme historien, vous ne lui reconnaissez pas les qualités?
Ah, c'est pas, je lui reconnais pas des qualités. Moi, je n'ai pas ni à lui reconnaître, ni pas à lui reconnaître des qualités.
Les historiens disent qu'il dit n'importe quoi. Hein.
C'est, oui, sur c'est tous les travaux de mon collègue Laurent Jeunet, etc. sur Vichy. Non, mais ça... D'accord, mais moi je m'intéresse à un itinéraire. Et de ce point de vue aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on refasse le procès de 68, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr que ce soit encore pleinement d'actualité. Je pense qu'il y a d'autres enjeux, si vous voulez, qui méritent le débat, et en particulier, moi je suis particulièrement préoccupé par tout ce qui relève de la montée en puissance, des technologies, des questions environnementales, etc., qui, de ce point de vue, pourraient fournir à un discours conservateur un certain nombre d'éléments de réflexion à mon sens de première importance, parce qu'on retombe sur le problème des limites dont je vous parlais.
Alors vous êtes conservateur ou réactionnaire? En tout cas,
je ne suis pas un progressiste.
Vous n'êtes pas un progressiste et vous ne vous reconnaissez pas dans le discours des néo-conservateurs, néo-réactionnaires qui mettent en cause mai 68, la modernité.
On aurait pu en mettre en cause mai 68, mais ça fait très longtemps que ça se pratique, si vous voulez. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre 2023 pour avoir remis en cause.
Pour vous, le renouveau de ce courant-là, c'est de retrouver le sens de la limite.
C'est de retrouver le sens de la limite et de prendre ça, si vous voulez, aussi sur une échelle et sur une périodisation beaucoup plus longue. Pour le coup, on parlait du conservatisme et de la réaction des conservateurs face aux enjeux contemporains. Je pense que les enjeux contemporains sont suffisamment inquiétants sans vouloir refaire des années plus tard le procès de 68. Alors, on peut tout à fait discuter de 68 et des conséquences de 68. Ça ne me pose absolument aucun problème, et y compris d'ailleurs de l'itinéraire d'un certain nombre de 68ards qui laissent quand même parfois sourire. Voilà, on pourrait aussi revenir, justement, à travers toute l'histoire du néolibéralisme aujourd'hui, sur le parcours d'un certain nombre de gens. Très bien, mais encore une fois, moi, ce qui m'importe, c'est de voir ce que sont effectivement les grands enjeux du temps, et je pense que les débats sur le transhumanisme et l'intelligence artificielle sont, à mon avis, des débats et des combats de première importance. Quand on avait sorti le dictionnaire du conservatisme, une des questions qu'on me demandait souvent, mais que faut-il conserver? J'ai presque envie de vous dire, ça paraît d'une banalité affligeante, mais je vous demande d'y réfléchir. Pour moi, ce qu'il s'agit de conserver à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'homme. Donc, si vous voulez.
Mais ce que vous nous dites, Olivier Dard, est en écho avec, par exemple, le message de Latour. Que faut-il conserver? Il demande ça, il dit la société doit se demander ça. En fait, est-ce qu'on pourrait dire que les conservateurs, les nouveaux conservateurs ou les nouveaux réactionnaires, on ne tranchera pas sur la sémantique, peuvent retrouver du lustre, parce qu'aujourd'hui, chacun est conscient que le progrès n'apporte pas simplement du bonheur, mais que le progrès peut être aussi destructeur. On le voit dans l'homme augmenté, dans le transhumanisme, oui. et dans l'intelligence artificielle. C'est le moteur du renouveau conservateur.
Oui, mais cela étant, en ajoutant par ailleurs que la question du progrès et des méfaits du progrès n'est pas une question nouvelle. C'est un très vieux débat qui nous ramène aussi à la question des guerres, à la question de l'atome, à la question de l'industrialisation et de son absence de limites, de la pollution. On est, si vous voulez, et ça c'est un petit peu peut-être le privilège de l'historien des idées, mais l'historien des idées se méfie toujours du présent, si vous voulez. Il a quand même souvent, et d'ailleurs c'est un problème de l'historien plus généralement d'ailleurs, faire attention à ce que, quand il analyse le présent, il ne soit pas toujours pris par les récurrences et par le danger, et j'en suis tout à fait conscient, de raisonnement par analogie en disant mais tel discours ne nous apprend rien par rapport à ce que disait un tel quelques décennies ou quelques siècles plus tôt. Mais il n'en demeure pas moins, je pense qu'effectivement, on est, et c'est pour ça qu'on avait fait les trois dictionnaires, hein, conservatisme, populisme et progressisme, on est à chaque fois dans le souci de réfléchir sur la longue durée, et là en l'occurrence, dans le débat conservatisme et progressisme dont vous parliez, c'est un élément qui me paraît très important, et si on revisitait un certain nombre de grandes idées ou d'idéologies contemporaines, notamment sur l'écologie, on se rendrait compte que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur les héritages et le...
Eh bien, je vous renvoie à l'émission qu'on a faite sur les ludites du 19e siècle, où évidemment, on a dérogé aussi les dangers du progrès.
J'imagine un collègue, oui, qui a travaillé là-dessus, François Jarige.
François Jarige, qui était l'invité principal de l'émission. Merci beaucoup, Olivier Dard. Je vous conseille donc les trois ouvrages collectifs qu'Olivier Dard a dirigés, la série de dictionnaires du conservatisme, du progressisme et du populisme aux éditions du CERF, les réacs, les réactionnaires, c'est le thème d'Enquête de politique cette semaine. Réalisation Christophe Imbert, archives sonores et documentation Franck Olivard, à la technique aujourd'hui Antoine Teboul. Vous pouvez nous laisser un message sur la boîte mail de l'émission, sur le site de France Inter, pour par exemple nous demander de consacrer un Enquête de politique à un thème, un isme de votre choix. À la programmation musicale Thierry Dupin, et puisqu'on en parle, les Fatal Picard sur France Inter.
La France pays d'assister, je les supporte de moins en moins, à commencer par mon voisin. Ah mais c'est sympa ce qui passe à la radio, pourquoi je n'aimais pas Sardou, c'était idiot. Pourquoi toujours aider les gens, mon chien préféré c'est le berger allemand. La vérité me frappe enfin maintenant, c'est chacun pour soi, Dieu choisit les méritants. Et tant pis s'il faut que je mette des mocassins ou des bateaux. Ça me gêne pas si ma fille doit apprendre le clavecin ou le hautbois. Et puis merde, je vote à droite juste pour savoir comment ça faire. Et puis merde, je vote à droite, je serai sûrement riche tout de suite après. Je vous mépriserai, ça me rendait malade. La fête de l'humain, au puits du fou, là je me sentais chez moi. Et s'il fallait tout confesser, c'est seulement à Vulcania que j'ai pris mon pied. Je pourrais m'acheter un petit 4x4, même un gros. On va pas me demander d'être écolo. Je reprends mes disques de Jean Ferrat, mais qu'il est drôle ce Laurent Gérard. Et tant pis, que je lise le Figaro dans le métro. Ça me gêne pas si je dois être le seul à trio qui applaudit pas. Et puis merde, je vote à droite, fini d'être culpabilisé. Fini le partage, vive le mérite. Ceux qui foutent rien pas, on les pique. Ça boostera les statistiques, chérie, de ça suffit pas, c'est pas assez, on va refaire 5 enfants, revendre notre stérilet. Tu vas quitter ton travail pour mieux tenir la maison. Et toi ma fille, plus jamais en pantalon. Le chômage va reculer sans fléchir, mon chien va sûrement se mettre à m'obéir. Les poubelles ne seront plus renversées, les mauvais éboueurs ne seront plus régularisés. Et tant pis s'il faut que je passe 15 heures par jour au bureau. Ça me gêne pas si on doit supprimer.
et les chômeurs en fin de droit. Et puis merde, je vote à droite, les improductifs pas de chance. Je suis fier, je vote à droite, marre d'être taxé à outrance. Comme Florent Pagny, quitter la France.
Et puis merde, je vote à droite, c'est le titre de la chanson des Fatal Picard. Philippe Muret, on ne peut pas évoquer le retour de la réaction, la détestation de l'époque, sans parler de cet auteur pamphlétaire, prolixe et très drôle. Fabrice Luchini a popularisé Muret, mais ses textes ont vieilli et s'écoutent aujourd'hui avec un étrange sentiment. Vous vous ferez votre opinion. Je vous propose d'écouter un extrait d'un texte qui date du début des années 2000, intitulé « Tombeau pour une touriste innocente ». C'est un poème, une fable retraçant le voyage d'une femme dans des pays sans doute islamiques. Alors elle est confiante et naïve, elle se fera égorger à la fin de cette fable cruelle. C'est un poème d'un pessimisme raillant la béatitude des optimistes, un réquisitoire contre la boboïtude. Toute la vulgate progressiste y est moquée de façon, c'est vrai, assez jubilatoire. Mais écoutez le début de ce poème et vous comprendrez rapidement à côté de quoi passent les réactionnaires aujourd'hui, par quoi ils sont eux-mêmes complètement dépassés, je vous laisse juger.
Toute petite, elle disait avoir été violée par son oncle et son père, et par un autre encore. Mais elle a dû attendre ses 31 balais pour revoir brusquement ce souvenir éclore. Elle avait également, durant quelques semaines, remplacé une hôtesse de chez Valeurs Humaines, filiale fondamentale de commerce équitable, où l'on vend seulement des objets responsables. Elle avait découvert le marketing éthique, la joie de proposer des cadeaux atypiques, fabriqués dans les règles de l'art humanitaire et selon les valeurs les plus égalitaires. Café labellisé, bio-humanisé, petit poulet de grain ayant accès au pré, robe du Bangladesh, jus d'orange allégé, connotation manouche complètement décalée. Sans vouloir devenir une vraie théoricienne, elle savait maintenant qu'on peut acheter plus juste et que l'on doit avoir une approche citoyenne de tout ce qui se vend et surtout se déguste et qu'il faut exiger sans cesse et sans embâge la transparence totale dans l'étiquetage.
Voilà, c'est la tradition pamphlétaire réactionnaire jusque dans ses excès. C'est la loi de ce genre littéraire, bien sûr. Terrible ici, avec cette façon d'évoquer la culture du viol par Philippe Muret, l'auteur fétiche des réactionnaires. Dans cet extrait, il s'agit de ridiculiser la dite bien-pensance de la gauche angélique et la soi-disant dictature progressiste de la pensée. Nous n'en sommes plus là. Les réacs d'aujourd'hui ont affaire à un phénomène qui semble fait pour eux. Ils se délectent de la bêtise des excès moralisateurs du wokisme. Le wokisme, les réactionnaires ont déjà réussi ça, réduire l'antiracisme et les tentatives de promouvoir une société plus inclusive, pour reprendre la vulgate progressiste, à sa caricature. Philippe Muret est mort avant que n'apparaisse ce phénomène, il en aurait fait certainement de terribles pages. Ce n'est pas les chars russes à l'est de l'Europe, ce n'est pas le réchauffement de la planète, ce n'est pas l'inflation et les menaces sur le modèle social, ce ne sont pas non plus les interrogations sur l'intelligence artificielle ou le transhumanisme qui constituent les dangers les plus immédiats pour les réactionnaires. Ce sont les trottinettes et l'écriture inclusive que quasiment personne n'utilise, et le wokisme et ses excès d'une minorité d'étudiants en sociologie qui menaceraient la civilisation millénaire française. Attention, je suis en train d'utiliser à mon tour le style pamphlétaire. Écoutez plutôt ce que disait Éric Zemmour il y a 3 semaines au moment de la sortie de son dernier livre de retour sur CNews. Il prévoit un nouveau clivage, un clivage identitaire.
Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons nous retrouver avec deux peuples, je l'ai déjà expliqué, le peuple de Mélenchon, le peuple islamo-gauchiste, 75% des musulmans ont voté Mélenchon, et avec les électeurs gauchistes, c'est-à-dire woke, etc. Bon. Et le peuple de droite qui veut défendre l'identité française, car je pense que ce clivage droite-gauche qui s'est déjà forgé autour d'autres thèmes, du roi, de la République, de la question sociale, est en train de se reformer autour de la question identitaire. Et quand cette génération-là aura disparu, il restera ce clivage droite-gauche. Donc en fait, là j'ai perdu, vous avez raison, oui. Et Mélenchon aussi, oui. Mais nous étions en avance historiquement sur le clivage à venir.
C'est le moment de retrouver François Huguenin qui nous avait déjà accompagné la semaine dernière pour parler des débuts de la réaction après la Révolution. Nous avions avec lui évoqué notamment Louis de Bonald et Joseph de Maistre, les auteurs initiaux de la réaction. François Huguenin est historien, essayiste, éclectique, journaliste. Il a collaboré à la revue Réaction, un regard donc engagé sur ce mouvement. Il fut dans sa jeunesse militant solidariste, c'est un mouvement d'extrême droite, et il est l'auteur chez Perrin de l'Action française et de l'histoire intellectuelle des droites, le conservatisme impossible, toujours chez Perrin. Et alors, le zémourisme, est-ce que c'est une pensée réactionnaire ?
Je ne sais pas si c'est une pensée ou une posture, vous voyez, je...
Alors, allons au-delà du zémourisme et du cas particulier de cet ancien journaliste devenu polémiste.
Oui.
Il y a en ce moment, dans le monde intellectuel français, dans la presse française, on le voit avec Valeurs Actuelles, ou avec peut-être le Figaro Vox, on voit une sorte de résurgence de la réaction des intellectuels, de jeunes journalistes qui essayent d'utiliser peut-être les méthodes gramsciennes, la guerre culturelle, pour revenir en arrière et pour fomenter une nouvelle pensée politique qui pourrait ressembler à la réaction, en tout cas de laquelle les conservateurs ne se réclament pas. Est-ce que la réaction est de retour, François Huguenin ?
Je pense que la fin du maurrasisme crée en France la fin de la pensée réactionnaire au sens d'une pensée qui, de manière mythique, hein, pense à un retour, à un avant la Révolution.
Quand on dit un réac aujourd'hui, c'est quoi ?
Non, mais aujourd'hui, il y a des gens qui, effectivement, sont sur des combats, sur des questions sociétales, sur des questions politiques aussi, qui font de l'agitation culturelle.
Il y a la France identitaire, la France éternelle, le retour à des logiques anciennes. Ça, c'est défendu par certains, quand même. Vous ne les classez pas parmi les réactionnaires ?
Prenons un exemple, la France et l'Europe. Aujourd'hui, défendre la France et dire que finalement l'idée de la France et l'arrêté de la France n'est pas morte, c'est pas être réactionnaire.
Non. D'ailleurs, le souverainisme n'est pas forcément réactionnaire.
Voilà. D'ailleurs, on peut être de gauche ou de droite en pensant ça.
Philippe Séguin n'était pas réactionnaire.
Voilà.
Et Jean-Pierre Chevènement non plus.
Et Jean-Pierre Chevènement non plus. Donc vous voyez, donc je pense que la pensée réactionnaire au sens où nous en parlions dans cette grande tradition, elle est morte. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très bien. Pour les jeunes qui, aujourd'hui, font un petit peu d'agite, gramsciennes de droite, on pourrait dire, c'est bien, parce qu'ils ne sont pas encombrés par de vieilles figures qui sont quand même très incapacitantes, puisqu'elles ont quand même à peu près tout raté. Donc, il vaut mieux que la jeune génération parte sur d'autres choses. Mais je ne pense pas que ce soit la pensée réactionnaire, au sens où on l'entendait. Ça ne fait pas une pensée non plus. Ça peut faire une posture. Ça n'avait pas toujours une pensée. Donc, est-ce que la pensée réactionnaire existe ?
Quand je vous ai contacté pour participer à cette émission, vous m'aviez dit au téléphone, ça m'avait étonné, les réactionnaires sont des modernes.
Bien sûr. La pensée réactionnaire et la posture réactionnaire n'existent qu'à partir de la Révolution française. Donc, ils se posent à partir d'un événement fondateur de la modernité et absolument fondateur de la modernité en France. Donc, la pensée réactionnaire, d'ailleurs, qui est française, elle existe comme une posture par rapport à la modernité.
Parce qu'elle n'existe que parce que la Révolution.
Oui.
C'est notre différence avec les Anglais qui ont pu développer un conservatisme, disons, de bon aloi parce que il n'y a pas eu cette rupture. Il y a eu la rupture cromwell, mais enfin, oui. Il y a eu ce continuum.
Oui.
C'est ça?
En Angleterre, il y a cette...
Common law.
Voilà, il y a cette idée qu'il y a trois forces qui sont celles de la monarchie, celles de la noblesse et celles du peuple qui doivent absolument fonctionner ensemble. Et ça fait un système politique. En France, tout a été rompu, toute la tradition politique a été rompue brutalement à la Révolution française. Donc toutes les postures politiques sont des postures modernes. Il n'y a pas une posture traditionnelle qui existe, ça n'existe plus. La tradition, elle a été rompue. Donc il n'y a pas de posture traditionnelle, il n'y a que des postures modernes.
Même ceux qui prétendent vouloir revenir à la tradition ?
Bien sûr, mais ils réinventent généralement une tradition.
Voilà, en fait on revient au début de notre interview.
Oui.
Généralement
oui.
Ceux qui veulent revenir à la tradition fantasme et réinvente une tradition mythifiée qui n'a jamais existé.
Et bien sûr, donc en réalité, ils font de la modernité. Ils créent, sous le nom de tradition, un des avatars de la pensée moderne.
Voilà, toute une émission pour dire que les réactionnaires, ça n'existait pas.
Non, en tout cas, ce sont des modernes. C'est une posture moderne.
Alors, il y a quand même quelque chose d'étrange, et on a tous connu des réactionnaires, des vieux réactionnaires, souvent catholiques et nostalgiques. Et en France, il en existe encore. Ils sont, surtout quand ils sont âgés, ils sont assez cultivés, très érudits, brillants.
En tout cas, oui, il y a une... Enfin, je veux dire, les gens qui lisaient l'Action française à l'époque, il y avait des gens très modestes et toutes les conditions, mais il y avait des gens très cultivés et qui lisaient aussi ce journal parce que c'était un journal de très haute culture. Et des gens qui avaient des humanités, comme on disait à l'époque. Mais aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on appelle vulgairement l'extrême droite, c'est pas du tout du même acabit.
Je veux dire, c'est pas le même niveau intellectuel.
C'est pas le même niveau intellectuel, c'est pas la même exigence de pensée.
Les réacs, c'était mieux avant, vous nous dites, François.
Oui, je crois que finalement, je suis un peu réac, alors.
Et pour finir, je voudrais vous faire écouter cet extrait d'une interview de la journaliste Elisabeth Lévy, infatigable réac de plateau. C'était en 2019. La patronne du journal Causeur venait de créer une chaîne de télé en ligne, une sorte de salon réac du nom de Réac'n'Roll pour débattre des questions de société. Un nouvel instrument qui se voulait cool et moderne de la guerre culturelle que les réactionnaires rêvent de mener avec l'efficacité des gauchistes de la fin du siècle dernier et qui aurait réussi à imposer leur hégémonie culturelle. Elisabeth Lévy était ici interrogée par les journalistes du site de Valeurs Actuelles. Cet extrait est révélateur de l'état d'esprit des réacs d'aujourd'hui et de la tentative gramscienne de guerre culturelle. Elisabeth Lévy commence par définir le terme.
Alors, sachant que réac et réactionnaire, ça n'est pas pareil. Pourquoi on a choisi cette étiquette qui énerve beaucoup de gens? D'abord parce qu'elle énerve beaucoup de gens et que ça nous amuse, mais surtout parce que dans le fond, c'était une injure, ce mot réac, quand il a été exhumé vers 2010-2011, et c'était une injure qui était à la base de liste noire. Alors, avec toujours les mêmes usual suspects, Alain Finkielkraut, Éric Zemmour, qui étaient dans toutes les listes. Tous ceux qui ont été appelés les réacs avaient des choses en commun en réalité, qui n'étaient pas d'être des affreux contre le progrès, des affreux adversaires de la Révolution française, mais tous ces gens se caractérisent par une chose, c'est qu'ils ont vu avant beaucoup d'autres ce que beaucoup de gens ne voulaient pas voir, conformément à ce que dit Peggy. Et ça, je pense que ça a créé une forme de tribu. C'est des gens qui ont vu l'islamisme quand personne ne voulait en entendre parler, des gens qui ont vu la crise de l'école quand on nous disait « le niveau monte », et je dirais la deuxième caractéristique, dans le fond, c'est que nous pensons tous que quelque chose, pas forcément les mêmes d'ailleurs selon lequel parle, mais quelque chose du vieux monde doit être conservé. Alors je crois que par exemple nous sommes tous des amoureux de la langue française telle qu'elle se parlait encore dans nos grandes écoles il y a quelques années et qui est en train d'être remplacée par une sorte de sabir ou avec l'écriture inclusive et ce genre de choses. Je crois que là-dessus, par exemple, il y a accord général. Voilà. Mais contrairement à ce qu'on nous a dit pendant des années, les réacs, ça n'est pas...
C'est pas les moisis,
c'est pas les grincheux, c'est une force intellectuelle et idéologique montante et pleine de dynamisme.
Voilà, pleine de dynamisme, Réac'n'Roll. Alors j'ai vérifié, il y a toujours un compte Twitter avec 3600 followers. Quant à la chaîne en ligne, eh bien, elle n'existe plus. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à la retrouver. C'est aussi ça, les nouveaux réacs. Beaucoup de bruit, une capacité à dire partout qu'ils ne peuvent parler nulle part. Cette émission est rediffusée le dimanche soir après le journal de 23h. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre isme, un autre mouvement politique à explorer. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.